Bonjour, nous sommes le lundi 12 décembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est l'émission qui, avec ses invités, voyage à travers le temps et fait dialoguer hier et demain. Le principe en est simple et vous devez commencer à le connaître. Deux invités qui partagent la même passion, le même métier ou le même engagement. L'un est toujours jeune, l'autre est encore jeune. Aujourd'hui, nos invités adorent et connaissent par cœur les immeubles entre République et Nation et sont incollables sur des sigles comme GPEC ou NAO. Ils sont syndicalistes. Carole Couvert et Vincent Denis, bonjour.
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 La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Vincent Denis, à l'école vous étiez délégué de classe ?
Non, pas du tout, j'ai jamais fait vraiment d'engagement. Pas du tout, j'ai jamais vraiment fait l'engagement jusqu'à rentrer dans un syndicat il y a 2 ans.
Qu'est-ce qui vous a pris d'un seul coup d'adhérer à un syndicat ? Vous n'aviez jamais été intéressé par cette démarche un peu collective ?
J'avais pas eu l'occasion de le faire avant, parce que je n'avais pas de travail tout simplement. Mais en rentrant dans la fonction publique, je n'imaginais pas ne pas être dans un syndicat, parce que je considère que les décisions, quand elles doivent être prises, ne peuvent pas seulement descendre et s'appliquer directement aux gens. Il doit y avoir une remontée des gens sur qui les décisions doivent s'appliquer, et c'est le rôle des syndicats. Entre autres, d'aider à faire remonter aux décideurs le point de vue des gens qui sont censés représenter.
Quand on a envie, alors vous êtes à la CFDT, quand on a envie comme ça de prendre un rôle dans son entreprise ou dans son administration, il y a quelqu'un qui vient vous chercher, c'est vous qui êtes allé au local syndical. Comment ça se passe concrètement ? Vous vous réveillez un matin en vous disant tiens, je vais me syndiquer ?
C'était ma démarche, mais effectivement, des rencontres peuvent aider beaucoup. C'est souvent un collègue de travail qui lui-même sera syndiqué, qui va vous convaincre de vous syndiquer. Il y a aussi régulièrement des décisions, il y a des prospectus qui sont donnés aux gens qui permettent justement de connaître le syndicat et de savoir où se renseigner pour se syndiquer. Bien sûr, il y a les panneaux d'affichage et bien sûr les nouvelles technologies, Internet, qui n'est plus très nouveau maintenant, mais qui permet de se syndiquer aussi facilement en 3 clics de souris.
Carole Couvert, vous avez été présidente de la CFE-CGC, dont vous êtes aujourd'hui présidente d'honneur et vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. J'ai rien oublié ? J'ai bien descendu, c'est ça ? Quand vous entendez Vincent, ça vous rappelle quelque chose ? Ça s'est passé comment à l'époque ? Je ne vais pas être discourtois, mais quand vous êtes engagé, ça s'est passé.
C'est ça que vous voulez dire ?
Pas du tout, c'était hier, j'en suis sûr.
Écoutez, il y a des points similaires, il y a des points de différence. J'étais à la base une antisyndicaliste primaire. C'est-à-dire que j'avais exactement l'image que vous avez décrite au démarrage de cette émission, à savoir des syndicats spécialisés dans la manifestation, d'où votre allusion au fait que nous devions connaître tous les pâtés de maison entre Nation et République. Et ça, pour moi, c'était un repoussoir. Je suis rentrée en 94 au sein d'EDF-GDF. À l'époque, c'était une seule et même entreprise. Et donc, j'ai connu les grosses grèves de 95, donc passer devant des piquets de grève sous des insultes. Et comme ça ne suffisait pas, on nous a fermé les portes de l'entreprise.
Parce que vous travaillez.
Oui, parce que j'allais travailler. Et j'étais jeune embauchée. Et donc, je suis régulièrement entrée dans l'entreprise en entendant collabo, facho. Donc, ça laisse quelques traces et quelques séquelles. Et puis, donc 7 ans se sont écoulés, 7 ans durant lesquels j'ai fait mon job à la fois de marketing puis de manager, jusqu'au jour, et là ça rejoint votre histoire, votre propre parcours, un collègue sur un site technique m'a dit « mais vu comme t'es dynamique, tu devrais être chez nous ».
Mais non, les syndicalistes ne sont pas des dynamiques, non, tout le monde le
dit. Et là je dis « mais chez vous c'est quoi ?» Donc quand il m'a dit syndicat, j'ai dit « oulala ». Et puis il a dit 2 choses qui m'ont convaincue. La première, c'est à la CFE-CGC, en adhérant, on est indépendant des partis politiques, donc il n'y a pas un encartement politique à la clé, et ça j'y tenais farouchement. Et puis la seconde chose qui m'a surtout convaincue, c'est avoir la capacité de proposer, d'agir et de ne pas subir. Et c'est ça qui a déclenché mon adhésion et ensuite le parcours militant. C'est que je me trouvais dans une période où en tant que manager... on aurait pu mettre un robot à ma place. Je ne voyais plus ma plus-value, ce que je pouvais apporter de plus. J'avais besoin d'autonomie et de capacité de créer. Et c'est ce que j'ai retrouvé en adhérant et en militant immédiatement quasiment à la CFE-CGC.
Oui, parce que moi, en fait, me vient une question toute bête. Voilà, sachant que...
Vous ne me posez jamais de questions bêtes, Abine.
Oui. 2 choses, 2 même, me viennent. La première, c'est en fait, c'est quoi déjà un syndicat ? Parce que il n'y a que 11% des salariés qui sont syndiqués.
Oui.
Donc, c'est quoi un syndicat? Ça parle à qui? Ça fait quoi? Oui. Et surtout, en fait, apparemment, vous avez des vrais métiers dans la vie ou syndicaliste, c'est une profession?
Non.
En fait, ces questions sont perfides, elles ne sont pas bêtes.
Non, non, vos questions sont fondamentales et c'est important aussi qu'on arrive à démystifier ce que l'on fait. Donc, un syndicat est là à la fois pour représenter les intérêts des salariés. Représenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller négocier avec le patronat, aller discuter avec le gouvernement, à la fois pour préserver des acquis, mais aussi développer de nouvelles possibilités pour les salariés. Maintenant, on n'est pas professionnel du syndicalisme. En tout cas, à la CFE-CGC, le parcours syndical représente un temps du parcours professionnel et j'en suis la preuve vivante. J'ai 43 ans, les auditeurs ne peuvent pas le voir, j'ai 43 ans,
je suis rentrée
dans le syndicalisme, j'avais en 2001, donc j'avais... Je fais le calcul en même temps. Je devais 28. Avoir 28 ans et je suis arrivée au niveau interprofessionnel à 30 ans. Donc aujourd'hui, à 43 ans, je vais repartir vers des activités classiques. Simplement, par rapport à votre question, il faut un minimum de professionnalisme sur les métiers que nous exerçons au sein du syndicalisme parce que les sujets sont très techniques. Et pour défendre bien des adhérents, des militants, des salariés, il faut savoir de quoi nous parlons. Et donc, il faut y avoir un minimum de formation pour bien les défendre, bien les représenter.
Et vous, qui vous a formé?
Bah moi, les formations sont en cours. D'une part, vos collègues du syndicat peuvent vous former. Et bien sûr, il y a des formations internes au syndicat qui peuvent vous former à travailler en commission, différentes commissions de l'administration sur lesquelles vous êtes censé représenter les salariés ou faire le rôle d'expert. Et bien sûr, l'auto-formation personnelle où là, il faut se former soi-même.
Ah, vous voulez dire qu'en fait, contrairement à ce que tout le monde croit, être syndicaliste, la formation d'un syndicaliste, c'est pas de savoir faire des cocktails Molotov?
Ah non, pas du tout. La plupart des gens nous demandent des conseils sur leur carrière professionnelle, donc il faut être bien au courant des règles RH, des ressources humaines. Les gens ont aussi des problèmes personnels, donc il faut avoir une écoute à leur donner régulièrement. C'est ça, régulièrement, on est dans notre local syndical, des gens viennent taper pour avoir de l'aide, des conseils. Ils viennent se confier à vous, il faut leur répondre assez rapidement, parce que c'est justement ça l'intérêt pour eux d'aller voir un syndicat, c'est d'avoir une réponse rapide. Et à leurs problèmes. Et donc, c'est au contraire, non, c'est un travail, c'est compliqué. Et ça nécessite vraiment. Je travaille plus en termes d'heures maintenant que je suis au syndicat que ce que je faisais avant.
Vous, Carole, votre spécialité, c'est de cuisiner les merguez, je crois.
Non, je disais toujours qu'à la CFE-CGC, nous pratiquions un syndicat qui était différent de la trilogie barbecue merguez défilé. C'est pas un jugement de valeur. C'est simplement, du coup, pour revenir à votre question, je crois qu'aujourd'hui, adhérer à une organisation syndicale, militer dans une organisation syndicale, peu importe l'organisation que l'on choisit, c'est aussi une opportunité de découvrir les coulisses de son entreprise ou de son administration différemment. Et en même temps, c'est une manière d'apprendre en accéléré. Quand on milite pour une organisation syndicale, on apprend à négocier, on apprend à créer du réseau. On découvre tous les sujets ressources humaines, on crée du lien et on revient plus riche de tout ça quand on le retourne en entreprise ou dans l'administration. Donc ça devrait devenir un passage normal, naturel, dans le parcours de n'importe quel salarié ou de n'importe quel fonctionnaire, y compris à des niveaux d'encadrement.
Si je reviens à votre parcours plus personnel, dans votre famille, à l'un, à l'autre, c'était une tradition ou...
Moi, pas du tout. Mon père est chef d'entreprise dans le privé et ma mère est pédicure-podologue, donc très loin du monde syndical dans l'absolu, même si effectivement on peut être chef d'entreprise et être syndiqué, bien entendu. Donc pas du tout. Non, c'était pas dans la tradition familiale.
Ils ont eu honte quand vous leur avez dit, mon fils devient fou?
Il a fallu leur expliquer le sens de ma démarche, bien entendu. Mais ils me connaissent globalement, donc ils savent très bien que je fais pas ça. Ils savent très bien que je fais ça pour défendre les gens et que ça s'inscrit bien dans un parcours professionnel réfléchi.
Et vous, Carole, c'était même contexte différent?
Alors, mon père était adhérent de la CFE-CGC, mais adhérent, point. Il n'était en aucune façon militant et ça n'a jamais été un sujet qui a été évoqué au niveau de la maison ou dans des conversations familiales. Et lorsque j'ai dit à mes parents que je m'étais engagée dans une carrière militante, la réaction de maman, ça a été de dire « Mon Dieu, qu'allons-nous dire à nos amis ?»
À ce point-là?
Voilà, donc je pense qu'il y a eu une forme d'omerta pendant quelques années autour de ce que je faisais. Et je suis redevenue présentable les premières fois où maman m'a vue à la télé et où ses amis lui ont dit « Ah, on a vu ta fille !» Et non seulement on a vu ta fille à la télé, mais ce qu'elle disait, c'était pas con.
Et donc aujourd'hui...
Vous croyez que les parents de Pierre Gattaz pensent la même chose?
Ah bah, Yvon était militant, donc je ne pense pas. Il y a une tradition de père en fils.
Le père dirige la même entreprise d'ailleurs.
Oui, non, mais là, moi, l'histoire, c'était qu'il n'y avait pas un creuset familial militant. Et donc, pour mes parents, c'était quelque chose d'inconnu, qui était difficile d'expliquer à leurs amis. Et je pense que c'est extrêmement révélateur. C'est aujourd'hui de la méconnaissance qui entoure l'action syndicale. On est souvent présentés comme des révolutionnaires, alors qu'en France, il y a des syndicats contestataires, il y a des syndicats dits réformistes. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse parler de ce pluralisme syndical tel qu'il est connu en politique. Non, pas du tout. À la CFE-CGC, encore une fois, on est indépendant des partis politiques, de droite comme de gauche. Si quelqu'un est encarté en tant que présidente jusqu'au mois de juin, ça ne me regardait pas du moment qu'il n'y avait pas de mélange des genres.
C'était Torrent, un morceau interprété par, attention, c'est plus dur que l'anglais, l'islandais, Asgeir Trausti Einarsson, un chanteur donc islandais qui est un peu le symbole de la relève, puisque ce jeune chanteur d'à peine 24 ans chante et compose sur des textes écrits par son père, un poète local très connu. Et en plus, ça donne de l'énergie.
« Quand vous dites tous les deux, en fait, qu'on est plus riche de son parcours de syndicaliste, moi, la question que je me pose, c'est, supposons, par exemple, que vous perdez votre emploi et vous avez été syndicaliste, reconnu, réputé, c'est pas un frein à l'embauche de l'avoir été ?
Non, je pense pas. Je pense pas encore une fois, parce que là, ça fait 15 ans que j'ai adhéré à la CFE-CGC. Ça fait 12 ans que je milite au niveau interprofessionnel, régional puis national. Et je pense que les compétences acquises font que ça peut très bien se vendre, se monnayer, et que ça peut intéresser un certain nombre d'entreprises. C'est une vraie richesse.
Vincent,
Pareil, on peut valoriser son parcours. On peut valoriser son parcours assez facilement. C'est un parcours qui est très valorisant d'être syndicaliste. On apprend plein de choses. Et donc, moi, je me rappelle à mes oraux d'inspecteur, j'avais réussi à vivre. J'avais réussi à valoriser le fait que j'avais été maître de guilde à un jeu en ligne, à World of Warcraft. Et on peut tout valoriser à partir du moment où on sait ce qu'on a tiré de l'expérience qu'on a faite. Et il y a plein de choses à tirer d'une expérience de syndicaliste.
Mais pour en revenir à Pierre Gattaz de tout à l'heure, supposons par exemple que vous postuliez l'un et l'autre.
Je crois qu'Abine a une passion secrète.
Oui, je l'aime. À un poste chez Radial, est-ce que le fait que vous ayez été syndicaliste ne va pas à l'embauche dire franchement, est-ce que je vais vraiment prendre des emmerdeurs ? Parce que c'est l'image que vous avez.
Je crois que la plupart des gens. La question, il faut la poser à Pierre Gattaz. Invitez-le dans une prochaine émission et demandez-lui.
Vous pensez être une emmerdeuse, Carole ?
Je crois que pour s'engager, il faut déjà avoir une fibre militante. Et fibre militante, ça ne veut pas dire emmerdeur, ça veut dire avoir des convictions, et je crois que ça c'est fondamental pour une entreprise, avoir des convictions, avoir la capacité de les exposer clairement, de les défendre, d'argumenter, de contre-argumenter. Et aujourd'hui, dans un contexte de crise, que ce soit économique ou sociale, c'est ce dont les entreprises ont besoin. Ils ont besoin de ces profils atypiques qui vont résister à la pression et qui vont leur apporter une vraie plus-value au sein du collectif.
C'est ce qu'on vous dit, vous, Vincent ?
Moi, d'une manière générale, je pense qu'on peut arriver, qu'il n'y a pas de phénomène antinomique entre le fait d'être syndicaliste et de défendre les travailleurs, les employés, et les intérêts du patron. Avoir les employés qui sont heureux dans leur travail, et c'est généralement pas grand-chose qu'on demande, c'est pas des grands efforts. On a l'impression qu'on râle tout le temps, qu'on demande toujours des choses compliquées, mais en général, on demande des choses qui sont simples à réaliser et qui améliorent largement la vie des agents, la vie des agents pour la fonction publique ou des employés, et qui augmente la productivité de l'entreprise. C'est pas forcément antinomique, les deux intérêts.
Vous êtes depuis 15 jours permanent de votre syndicat. On ne l'a pas dit au début, il n'y a aucune raison qu'on ne le dise pas. Vous êtes à la CFDT.
Oui, c'est ça. Depuis 15 jours, j'ai commencé en tant que permanent.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le pas et à ne faire plus que ça pendant, j'imagine, un certain temps? Il y a un mandat.
C'est un engagement moral de 2-3 ans jusqu'aux prochaines élections. Mais c'est l'envie de changer de métier, tout simplement. Dans la fonction publique, on change régulièrement de métier. Et passer de l'informatique, c'est ce que je faisais jusqu'alors, au syndicalisme, me permettait d'avoir un métier beaucoup plus varié, un peu plus. On fait un peu de journalisme quand on fait du syndicat, on fait de l'analyse politique, on distribue des tracts, on les fait.
Alain Duhamel est un syndicaliste et on nous l'avait caché.
Non, pas que lui. Mais oui, on distribue des magazines aux agents. Donc il faut bien rédiger les articles et ce genre de choses.
Carole Couvert a fait ensuite carrière à l'Interpro. Vous avez donc été à des sommets sociaux. Vous avez été à l'Élysée plusieurs fois. Est-ce que c'est une carrière qui vous tente, vous, Vincent Denis, même si vous en êtes à votre début? Vous avez envie d'aller jusqu'à ce niveau en termes de compétences, mais en termes de progression?
En termes de compétences, peut-être, justement, mais progression, je ne sais pas.
Ça vous fait pas rêver en 2017 d'aller serrer la main à François Fillon?
Non, ça fait toujours peu. François Fillon, là, vous visez la polémique, mais.
Je crois, ce soir, il y a une habile polémique qu'on a.
Je ne suis pas rentré en syndicalisme en me disant je veux devenir calife à la place du calife, monter très haut, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne démarche déjà pour monter haut. Il faut faire son travail à l'étage où on est, le faire bien, et si ça vous convient à vous et convient à les personnes qui sont au-dessus, vous montrer naturellement. Je le vois un petit peu comme ça. Jamais d'un premier. Je ne suis pas monté en me disant je vais monter très haut et faire carrière à la CFDT.
Et vous, Carole, vous avez des souvenirs de ces moments-là? Parce que là, on n'est plus du tout dans l'entreprise. À ce moment-là, on représente au niveau national des intérêts divergents.
Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent? On participe en tout cas à l'élaboration de la loi.
Alors, je crois d'abord qu'il faut bien garder les pieds sur terre. Quand on va à l'Élysée, quand on rencontre le président de la République, quel que soit.
Vous en avez rencontré deux, vous ?
Oui. Oui, oui.
Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Ouais,
c'est lequel votre préféré ?
Non, j'ai pas avoir de préférence. C'était pas mon rôle en tant que président de confédéral d'avoir de préférence. En revanche, je pense que c'est important de garder la tête froide. Nous rencontrons un homme qui a été élu au suffrage universel, qui est là pour porter les intérêts de la France. Et en face, nous sommes les représentants des salariés. Donc, quand j'allais dans ces rencontres, et c'est valable y compris pour vos sujets de prédilection depuis tout à l'heure, Pierre Gattaz également, j'allais rencontrer ces personnes fortes d'un mandat venant de mes 160 000 adhérents. Et donc, j'avais des lignes à défendre. J'étais là pour porter des propositions, des contre-propositions quand les projets ne nous convenaient pas. Et donc, les défendre au mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte de crise économique et sociale, les adhérents, les militants, attendent de vraies prises de position claires et les mêmes entre le moment où on en débat les yeux dans les yeux et celle que l'on va tenir dehors devant la presse. Je vous dis ça parce que dans l'histoire du syndicalisme, ça n'a pas toujours été le cas.
C'est quoi le plus intéressant ? C'est d'être dans l'entreprise, dans la gestion, ou c'est d'être à ce niveau interpro ? Vous qui avez fait les deux ?
Chaque fonction est vraiment très intéressante parce que pour avoir expérimenté justement être partie du local, c'est-à-dire un mandat local dans une entreprise pour aller défendre ses collègues et être arrivée finalement en 12 ans à la tête de l'organisation, puisque c'est le temps entre mon adhésion et mon accession à la présidence de la Confédération CFE-CGC, j'ai adoré chacun des niveaux parce que j'ai appris de nouvelles choses. Et je crois qu'aussi, c'est la particularité du militant syndical, c'est d'être curieux, d'avoir envie de découvrir plus. Et pour découvrir plus, il faut avancer, et y compris aller au niveau interprofessionnel, donc pour l'ensemble des secteurs d'activité.
Alors, moi, Pierre Gattaz n'est pas mon sujet de prédilection, mais en fait, Oui, c'est un objet de passion pour une question assez simple qui est celle de la représentativité. Oui. Puisqu'on sait par exemple que le MEDEF, et c'est pour ça que j'insiste dessus, est censé représenter aussi toutes les entreprises, c'est-à-dire aussi les petites entreprises qui sont 90% de ses membres. Or, chaque fois que je l'entends parler, j'ai pas l'impression qu'il représente autre chose que Bolloré. Mais c'est mon.
Écoutez, on va voir la vérité des prix en 2017. L'avantage de cette année, au-delà d'être celle de l'élection présidentielle et de l'élection législative, c'est que nous allons avoir deux rendus de représentativité. Tout d'abord pour les organisations de salariés que nous représentons tous les deux, puisqu'il y aura la pesée 2017 qui dira où en sont l'ensemble des organisations représentant les salariés. J'espère pour la CFE-CGC que nous allons prendre entre 1,5 et 2 points. Je pense que c'est possible vu nos résultats dans les entreprises et au brillant travail de nos militants. Et puis pour le patronat, ça va être la première. Il faut se rappeler, pour nos auditeurs, que la loi sur la représentativité date de 2008. Depuis 2008, les organisations de salariés sont soumises à l'élection pour être considérées représentatives. Ça veut dire qu'il faut franchir le score de 10% en entreprise, de 8% dans les branches professionnelles et au niveau interpro. Le patronat, jusqu'à présent, et regardez, ça va faire 9 ans, a été épargné. Donc nous allons avoir la première pesée en 2017 qui va dire ce que pèsent réellement le MEDEF, la CGPME et puis la fameuse alliance entre l'UPA et l'UNAPL qui vient d'être créée.
Puisqu'on parle de représentativité, vous Vincent, vous faites partie d'un syndicat qui a quand même pour objectif de devenir peut-être le premier syndicat à la place de la CGT. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous challenge, comme disent les jeunes que je ne suis plus.
Bien sûr, c'est surtout dans le privé, c'est un peu moins dans le public malheureusement, et encore moins chez nous. Mais effectivement, c'est un combat et on espère pouvoir porter nos couleurs et arriver les premiers au moins dans le privé, oui.
Oui, alors moi j'avais une autre question en fait. Souvent on voit, pour les gens, on va dire lambda, les syndicats c'est souvent les fonctionnaires. Voilà. Et on établit souvent une espèce de dichotomie entre le fonctionnaire et le privé, alors qu'il semblerait que ça soit beaucoup plus gris que ça. Hein, beaucoup plus.
Ça dépend de l'histoire des organisations. Certaines se sont construites historiquement du côté des fonctions publiques. Typiquement pour la CFE-CGC, nous nous sommes construits en 1944, plutôt dans la métallurgie. C'est notre creuset, notre bastion initial. Et donc nous sommes plus forts dans le privé que nous ne le sommes dans le public. L'avantage, c'est que ça nous laisse des marges de progression. Donc je crois que ce sont des histoires avant tout d'organisation.
Mieux qu'une manif ou qu'un comité d'entreprise, sa chronique chaque semaine change la face du monde. C'est l'heure d'écouter Abline.
Chers auditeurs, je me suis trompée. Aujourd'hui, entonnons ensemble le chant des partisans et débutons donc par « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Cela nous fait donc un début qui est une fin, puisque c'est la dernière phrase du manifeste du Parti communiste
De Marx et Engels.
C'est même l'épitaphe de ce cher Karl.
Mais... RIP, Karl.
Ouais. Mais qui sait aujourd'hui encore ce que c'est qu'un prolétaire ? Parce qu'aujourd'hui, le prolétariat, on s'en fout un peu. On classe en trois catégories, l'élite, la classe moyenne et les pauvres, dits les sans-dents. Mais avant, le syndicalisme, c'était la lutte des classes entre prolétaires et capitalistes, dont le résultat ne devait pas être la guerre, mais le dialogue social. Car avant que, mon ami, Pierre Gattaz se fasse le porte-parole d'un syndicat qui veille aux intérêts du capital et qui trouve génial de faire travailler 39 heures payées 35, il y a eu des réussites au syndicalisme. Des réussites qui, même obtenues dans le sang, étaient du progrès social. Parce qu'il y a d'abord eu des révoltes en 1830, en 1848 et 1871. Et le grand moment fut évidemment 1936, dont, à part Pierre Gattaz, tout le monde se souvient avec la larme à l'œil. Salaire, congés payés, convention collective et 40 heures. Comme quoi, en 100 ans, avec la tertiarisation de l'économie, l'avènement d'une société de loisirs et la robotisation, on a vaguement réussi à gratter 4 heures de travail. Il faut dire que le taux de syndicalisation en France est aux alentours de 11% et que plus vous êtes précaire, donc avez besoin de soutien, moins vous êtes syndiqué. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui est mieux qu'avant ? À vrai dire, je ne sais pas trop quoi vous répondre. La dernière loi travail valorise l'accord dans le sein de l'entreprise et non plus les accords de secteur. Peut-être est-ce en progrès. La mobilisation via les nouveaux outils numériques permet de donner de l'ampleur au message et peut-être est-ce en progrès. Certains voient dans la robotisation et l'économie de la connaissance la fin du travail et peut-être est-ce en progrès. Ce qui est certain, c'est que de nouvelles formes de lutte voient le jour et qu'il faut s'y adapter. Et que les millennials qui arrivent aujourd'hui sur le marché auront besoin de se mobiliser. Alors millennials de tous les pays, unissez-vous.
La relève, tous les lundis à 14h. Sur Radio Campus Paris.
Carole, Vincent, justement, on parle de syndicalisme depuis tout à l'heure. On reproche parfois aux syndicats de ne pas assez s'intéresser aux nouvelles formes de travail. On voit par exemple, on ne va pas citer de marque, parce qu'on a déjà suffisamment cité une marque du MEDEF, on voit des chauffeurs de voies de VTC.
Je suis uber d'accord avec vous.
Voilà. Qui peine à s'organiser. On dit que vous les représentez très mal. Qu'est-ce que vous en pensez l'un l'autre ? Est-ce que c'est une voie d'avenir ? Vincent ?
Ben, je pense pour toutes ces formes d'ubérisation de l'économie, finalement, on l'a dit.
On va dire aussi chauffeur privé.
Chauffeur privé. Chaufferisation de l'économie, si voilà. Vous préférez. Effectivement, ce sont des professions qui viennent de naître, finalement. Donc, on n'a pas encore pu développer, à l'aide du législateur, qu'il faut qu'il prenne le sujet en compte, un cadre légal qui soit protecteur pour ces professions-là, notamment en termes de sécurité sociale, des choses comme ça. C'est difficile d'avoir des cotisations et de participer au financement de la sécurité sociale. Et donc, il faut prévoir justement un nouveau statut pour ces nouveaux travailleurs-là, les travailleurs indépendants, qui va prendre de plus en plus de place.
Est-ce que c'est pas à vous de les prendre en charge et, et de les amener justement dans
le... C'est à nous de les défendre et de les convaincre, de faire une espèce de groupe de pression pour les politiques, mais aussi tout ce qui est... Il n'y a pas que l'ubérisation de l'économie qui est en jeu. Il y a tout ce qui est télétravail, des choses comme ça, qui touchent aussi les travailleurs qui sont sur place et qui est un sujet très porté par la CFDT.
Je crois que votre question, elle doit nous amener à repenser le modèle du dialogue social. Nous sommes en 2016, on n'est plus au sortir de la guerre. Donc les solidarités ne doivent plus être les mêmes. Il faut imaginer des passerelles entre les fonctionnaires, donc le secteur privé et le secteur public. Il faut imaginer des passerelles entre les salariés et les chefs d'entreprise, parce que vu le nombre d'entreprises qui vont être à reprendre dans les années à venir, quand on a la pyramide des âges,
faut jamais oublier que ces chauffeurs sont des chefs d'entreprise, ils sont
auto-entrepreneurs. Hein. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'aujourd'hui la question c'est quel modèle de dialogue social voulons-nous demain, sachant qu'il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont émerger dans les 5 années qui viennent. Et je crois que si on veut un dialogue social responsable, mature, qui ait la capacité de prendre les bonnes décisions, il va falloir à la fois clarifier les missions que l'on confie aux organisations syndicales, qu'elle soit salariée ou patronale, que l'on redore le blason du dialogue social, que l'on valorise l'engagement des militants, qu'ils correspondent aux syndicats salariés ou patronaux. Et puis la dernière chose, je crois qu'il va falloir qu'on en parle à l'école, parce qu'aujourd'hui, souvent, salariés ou chefs d'entreprise découvrent le syndicalisme au moment soit d'un mouvement social, soit d'un accident de parcours professionnel. Donc nous avons de grosses, grosses marges de progression.
Quand vous parlez dialogue social, en fait, et comme avant, nous avons parlé de ce merveilleux néologisme que nous devons à Maurice Lévy d'ubérisation, je m'interroge un petit peu sur, en fait, qu'est-ce que c'est que le dialogue social et la solidarité, en fait, quand on voit, par exemple, que la plupart des millennials n'imaginent même pas être solidaires et valorisent, en fait, des visions de la société, etc., libertarienne, qu'on nous a apporté des États-Unis avec le merveilleux soft power, etc., et qui valorise le simple individu et pas la solidarité. Comment on fait, en fait ?
Je ne partage pas votre analyse. Je ne partage pas votre analyse parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent dans l'associatif. Donc, c'est bien qu'ils vont chercher une forme d'engagement au service des autres, une valorisation. On voit aussi, deuxième élément, on voit aussi les jeunes aller vers le secteur de l'économie sociale et solidaire, alors que les salaires, ils sont 20% inférieurs en moyenne que les autres secteurs d'activité. Donc, je pense que la jeune génération a toujours soif à la fois de progrès social, de collectif. La seule question, c'est quelle place on leur laisse ? Comment sont-ils associés à la prise de décision ?
C'est quoi le progrès social pour vous deux ?
Ouh, alors là, je pense qu'il faudrait au moins une heure pour qu'on en discute.
Il nous reste à peu près deux minutes.
Je pense que le progrès social, ça commence déjà par avoir du travail pour tous, et nous en sommes très loin aujourd'hui. Mmh. Le progrès social, c'est avoir un reste à vivre décent à la fin du mois pour avoir un certain nombre d'activités culturelles au-delà du simple, de la simple partie alimentation, logement ou transport, et que là aussi on doit repenser les solidarités. En revanche, dans repenser les solidarités, il faut arrêter de taper sur la même catégorie. Ça fait 5 ans qu'on tape sur les classes moyennes. Je crois qu'il faut envisager une fiscalité plus équitable et un effort aussi équitable réparti entre toutes les catégories, entreprises comme salariés également.
Vincent Denis, vous aurez sûrement le mot de la fin.
D'accord, je pense que le progrès social est permettre à aux jeunes de, notamment, de s'émanciper, de pouvoir s'accomplir dans leur vie, leur donner les moyens finalement de mettre en œuvre leurs décisions et de prendre plein pied dans le siècle qui a eux.
Pour vous, devenir délégué syndical, ça a participé justement à ce parcours, peut-être d'émancipation pour employer un grand mot ?
Oui, bien sûr. Ça me permettait finalement d'élargir mes horizons et d'apprendre plein de choses en plus. Et ça, c'est très intéressant toujours.
Mais c'est génial!
Voilà, Abline parlait de Pierre Gattaz encore. Vous venez d'écouter La Relève, une émission présentée et proposée par Abline et Christophe, à la réalisation comme toutes les semaines avec brio Jérôme. Retrouvez-nous sur la page Facebook La Relève Radio Campus. Bonne semaine à tous et à dans 167 heures!